Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 19 février 2025. En Guinée, un responsable de l'opposition, Abdoul Sakho, a été arrêté aujourd'hui par des hommes encagoulés à Conakry. Le Soudan critique l'accueil des paramilitaires au Kenya, accusant ces derniers de préparer la proclamation d'un gouvernement parallèle. En RDC, des combats ont éclaté aujourd'hui entre des soldats congolais et des miliciens pro-gouvernementaux dans la ville d'Uvira.
Comment dire que l'armée congolaise est fouille? Ça non. Je crois que dans les tactiques de guerre, il y a des replis stratégiques.
Trésor Lutala Mtwiki, élu de Mwenga, dans le sud Kivu, donnera son témoignage dans la partie magazine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Donald Trump d'être influencé par la désinformation russe. Le président américain réplique en qualifiant Zelensky de dictateur sans élection. Le Hamas a annoncé être prêt à libérer tous les otages restant à Gaza dans le cadre de la deuxième phase de la trêve avec Israël après 15 mois de guerre. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Un responsable du mouvement des forces vives de Guinée, Abdoul Sakho, coordonnateur du Forum des forces sociales, a été arrêté chez lui ce matin par des hommes masqués en banlieue de Conakry, ont indiqué ses proches et son avocat. Des précisions avec Nathalie Barge.
Selon des proches de l'opposant, des individus masqués sont venus à bord de trois véhicules. Ils sont entrés chez des voisins, ont ligoté des occupants et leur ont demandé où Abdoul Sakho habite. Ils sont ensuite allés chez lui et l'ont emmené avec ses téléphones. Son avocat, Almami Samori Traoré, a indiqué avoir signalé l'enlèvement au procureur de Dixine et qu'il se rendrait à la gendarmerie et à la police en espérant le retrouver. Il ne faut pas que la liste des disparitions forcées s'allonge, a déclaré l'avocat, précisant que son client recevait des menaces régulièrement. Alseni Sall, membre de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, a condamné l'enlèvement. Biro Bari, un cadre du Forum des forces sociales de Guinée, a déclaré que son organisation exige sa libération inconditionnelle, ajoutant que si quelque chose lui est reproché, cela doit passer par une convocation en bonne et due forme. Abdoul Sakho a déjà été interpellé le 11 mars 2023 et relâché le même jour pour son implication dans des manifestations interdites. Les opposants Oumar Sylla et Mamadou Biloba sont portés disparus depuis juillet 2024 et un autre activiste, Alioba, a été condamné en janvier à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du général Mamadi Doumbouya.
Au Ghana, les coupes dans l'aide américaine laissent le pays avec un déficit de 150 millions de dollars affectant la santé et l'agriculture. Le gouvernement cherche un soutien financier international pour limiter les dégâts, mais l'incertitude demeure. Le retrait du financement de l'USAID menace l'approvisionnement en médicaments, notamment pour 150 000 patients séropositifs et pourrait aggraver la mortalité due au paludisme et à la tuberculose. Les agriculteurs privés d'engrais et de semences redoutent une baisse des récoltes et une hausse des prix alimentaires. L'agence de la fonction publique du Libéria a gelé mardi les salaires de 216 fonctionnaires sur les 457 qui ont été suspendus par le président Joseph Boakai. Leurs salaires et leurs avantages ont été suspendus pour un mois jusqu'à ce qu'ils régularisent leur déclaration auprès de l'agence anticorruption du Libéria. La semaine dernière, 457 fonctionnaires nommés par le gouvernement ont été épinglés par l'agence anticorruption pour n'avoir pas déclaré leur patrimoine avant le mois de novembre, comme le demande le code de conduite des fonctionnaires du Libéria. Le Soudan dénonce l'accueil des paramilitaires soudanais sur le sol kényan. Selon le gouvernement, les FSR prévoient d'y proclamer un gouvernement parallèle dans 2 jours. Alexandrine Olunion.
Le ministère soudanais des Affaires étrangères accuse le Kenya de cautionner les atrocités des FSR et d'en être complice en permettant à ces dernières de s'exprimer. Selon des sources citées par l'AFP, les paramilitaires des forces de soutien rapide prévoient d'annoncer la formation d'un gouvernement parallèle dans les zones qu'ils contrôlent au Soudan lors d'une réunion prévue vendredi à Nairobi. L'événement était initialement prévu mardi à Nairobi au Centre international des congrès Kenyatta, propriété de l'État, mais après plusieurs heures de retard, il a été repoussé à vendredi. Le général Daglo lui-même a atterri au Kenya et est attendu vendredi à la réunion, ont indiqué à l'AFP des sources impliquées dans l'organisation de l'événement. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a dénoncé cet événement, affirmant dans un communiqué qu'il favorisait le démembrement des États africains, violait leur souveraineté et s'ingérait dans leurs affaires intérieures. La présidence kényane n'a pas encore réagi, mais à Nairobi, des voix se sont érigées contre la tenue de cet événement dans la capitale kényane.
Le gouvernement sud-africain a dû repousser aujourd'hui son discours attendu sur le budget devant le Parlement, la coalition au pouvoir n'étant pas parvenue à se mettre d'accord sur une hausse annoncée de la TVA. Ce discours aura finalement lieu le 12 mars, a annoncé le gouvernement sud-africain. La première économie du continent peine à trouver des recettes suffisantes après avoir perdu l'aide américaine, en partie en raison d'une récente loi foncière dénoncée par le président Donald Trump comme discriminatoire à l'égard de la minorité blanche.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien estime que son homologue américain vit dans un espace de désinformation. Volodymyr Zelensky réagissait ce mercredi à des déclarations du président Donald Trump qui a pointé hier l'impopularité du dirigeant ukrainien et le détournement de l'aide américaine. Jacques Aristide.
Le président ukrainien est d'avis que cette désinformation vient de Russie. Tout en affirmant beaucoup respecter le président Trump lors d'une conférence de presse à Kiev aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a accusé l'administration américaine d'aider le président russe Vladimir Poutine à sortir d'années d'isolement vis-à-vis de l'Occident. Hier, à Mar-a-Lago, en Floride, le président Donald Trump s'est dit très déçu des critiques de M. Zelensky, qui a notamment décrit les discussions russo-américaines en Arabie Saoudite comme des pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Eh bien, vous avez été là depuis 3 ans, vous auriez dû y mettre un terme il y a 3 ans, vous n'auriez jamais dû la commencer, a déclaré M. Trump à propos de la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le président Trump a également jugé son homologue ukrainien d'être impopulaire, critiqué l'absence d'élections et assuré qu'une partie de l'aide américaine avait été détournée. Ces propos interviennent alors que l'émissaire du président américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, est arrivé à Kiev aujourd'hui avec l'intention, dit-il, d'écouter les préoccupations des Ukrainiens.
Et Donald Trump a doublé la mise aujourd'hui. Il a qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection après que le président ukrainien eut rejeté les attaques à son encontre lancées la veille par le président américain. Un dictateur sans élection, Zelensky devrait se dépêcher où il ne va pas lui rester de pays, a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, après avoir notamment décrié la veille l'absence d'élections en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en raison de la loi martiale. Le président russe Vladimir Poutine, lui, s'est félicité aujourd'hui des pourparlers entre chefs de la diplomatie russe et américains qui se sont tenus mardi en Arabie Saoudite, estimant qu'ils sont un premier pas pour établir les relations entre les deux puissances. Le Hamas est prêt à libérer tous les otages restant dans la bande de Gaza lors de la deuxième phase de la trêve entre le mouvement islamiste palestinien et Israël après 15 mois de guerre. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'un de ses responsables. Point avec Rosine Monezero.
Nous avons informé les médiateurs que le Hamas était prêt à libérer tous les otages en une seule fois au cours de la deuxième phase de l'accord, plutôt que par étapes comme pendant la première phase en cours, a déclaré ce responsable Taher Al-Nounou. Au total, 251 personnes avaient été enlevées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. 70 sont encore retenues à Gaza, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne. Au cours de la première phase de l'accord de cessez-le-feu qui doit se terminer le 2 mars, 19 otages israéliens ont été libérés contre plus de 1100 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le 16e jour après l'entrée en vigueur de la trêve, le 19 janvier, soit début février, des négociations indirectes entre Israël et le Hamas devaient commencer, ce qui n'a pas été le cas. Les termes de la deuxième phase de la trêve, qui doit voir la fin définitive de la guerre et la libération de tous les otages, doivent être conclus d'ici au 2 mars. Ensuite, si la deuxième phase se déroule comme prévu, la troisième et dernière portera notamment sur la reconstruction de Gaza.
Et la première ministre italienne Giorgia Meloni a rendu visite ce mercredi au pape François dans l'hôpital romain où il est soigné pour une pneumonie et a affirmé que le pontife de 88 ans était alerte et réactif. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lindon.
La demande mondiale de lithium, de cobalt et de nickel pourrait être multipliée par 75 d'ici 2050 par rapport au niveau de 2020, selon l'agence Ecofin, qui cite un rapport publié le 17 février dernier par la Bourse émiratie des matières premières Dubai Multi Commodity Center. Cet accroissement de la demande de ces minéraux intervient dans un contexte d'accélération de la transition énergétique et de numérisation accru de l'économie. Le gouvernement congolais envisage l'adoption d'un nouveau code gazier pour attirer les investissements et accélérer la diversification de son secteur énergétique. C'est ce qu'a récemment annoncé le ministre de l'Énergie Bruno Jean-Richard Itoua lors d'un entretien en prélude à la tenue du 24 au 26 mars prochain du Congo Energy and Investment Forum. Selon l'agence Ecofin, le Congo, longtemps dépendant du pétrole, cherche désormais à valoriser son potentiel en gaz naturel afin de s'imposer comme un acteur majeur en Afrique centrale. La République démocratique du Congo, elle, représentée par le ministre d'État chargé de l'agriculture, a entamé des pourparlers avec la société italienne Sace pour le financement d'un projet dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel. Selon Financial Afrique, ce projet, dont le coût est estimé entre 40 et 100 millions d'euros, vise à transformer le manioc dans 10 sites répartis à travers le pays.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
La Tanzanie vise un retour en force et une qualification au mondial des moins de 17 ans.
Le sélectionneur des Serengeti Boys, Agre Maurice, ambitionne de qualifier la Tanzanie pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA. Le défi est de taille, placé dans le groupe A avec le Maroc, l'Ouganda et la Zambie. La Tanzanie prépare intensément le tournoi prévu du 30 mars au 19 avril 2025. Les Serengeti Boys ont manqué les deux dernières éditions de la CAN U17 CAF Total Energy, un échec qui renforce leur détermination pour revenir plus fort. La dernière apparition des Tanzaniens en CAN U17 remonte à 2019 lorsqu'ils ont accueilli le tournoi. En 2017, pour leur première participation, les Serengeti Boys avaient déjà échoué à sortir du groupe malgré une prestation honorable lors des phases finales au Rwanda.
Un atelier sur l'assistance vidéo à l'arbitrage s'ouvre en Zambie.
La Fédération de football de Zambie, FAZ, a lancé un atelier de formation sur la VAR à Lusaka pour 40 arbitres, hommes et femmes, visant à développer la technologie dans la région. Ce programme intensif de 5 jours marque une étape majeure pour la professionnalisation de l'arbitrage sur le continent et l'introduction du VAR dans les compétitions COSAFA dès cette année. La Zambie est le premier pays des zones centrales, orientales et australes à bénéficier d'un déploiement structuré du VAR. Lusaka ambitionne d'intégrer cette technologie dans son championnat à l'avenir.
Ademola Lookman, blessé par les critiques de Gasperini après l'élimination de l'Atalanta.
L'attaquant nigérian de l'Atalanta a exprimé sa tristesse après que son entraîneur Gasperini l'a rendu responsable de l'élimination de son équipe en barrage d'accession au 8e de finale de la Ligue des Champions face à Bruges. Mardi soir, Lookman, auteur d'un triplé en finale de la Ligue Europa 2024 face au Bayern Leverkusen 3-0, a vu sa tentative de pénalty stoppée par le gardien de Bruges alors qu'il venait de réduire le score à 3-1.
En Allemagne, Harry Kane incertain ses prochains jours avec le Bayern.
L'attaquant anglais du Bayern va être arrêté ces prochains jours après avoir reçu un coup lors d'un match de Bundesliga, annoncé hier mercredi le club bavarois dans un communiqué. Les examens réalisés à Munich ont révélé un hématome à un mollet. Le club munichois n'a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité.
Page des sports VO Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En RDC, les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise continuent leur avancée dans le sud Kivu. D'un autre côté, Médecins sans frontières a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences des affrontements entre l'armée congolaise qui fait un repli stratégique et les milices Wazalendo, pourtant alliées à Uvira. Edi Sango a joint à Kinshasa le député national Trésor Lutala Mtwiki, élu de Mwenga dans le sud Kivu.
Il y a les combats sur le terrain au sud Kivu. On parle d'une partie du territoire d'Ovira, donc à Maniola, une partie d'Ovira. On parle d'une partie de Walungu. Mais pour avoir la certitude, je ne suis pas sur le terrain et je ne suis pas dans les circuits de défense pour savoir la vraie situation du terrain.
Vous êtes en contact avec votre circonscription et vos électeurs. Dans quelle situation et comment vivent-ils en ces moments-ci?
La population, ma base électorale, décide qu'il y ait des moins, est dans une situation de cause ou de peur, du fait que nous avons déjà vécu dans de telles situations. Vous vous rappelez qu'en 98, le territoire de Mwenga, le territoire de Fizi, était parmi les cibles de certains nègres dont on avait perdu chez moi à Mwenga, Kasika. On avait perdu le Mwami Mubeza et sa femme, le père Olakobe, Tani, et des milliers de populations. À Makobo, la même chose. Et à Mwenga, on avait même enterré des femmes vivantes. Alors, avec cette situation, par exemple, laquelle chez nous, on dit que si une fois vous avez déjà subi tout ce qui peut se passer à côté de toi, tu auras toujours peur. C'est ça, c'est ce qui fait peur à cette population. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et c'est la population civile qui est toujours victime dans tout ce qui se passe. Okay. Et surtout que notre Mwenga, nous sommes habités par un problème très sérieux de sous-développement, problème des infrastructures routières et autres. Alors ça, ça vient causer encore, créer encore des sérieux problèmes sur le terrain.
Mais
c'est tout à fait normal que cette population souffre.
MSF est en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a eu pillage avec les affrontements entre les Wazalendo et l'armée congolaise à Uvira. Qu'est-ce qui s'est passé?
Même s'il peut y avoir quelques défaillances, mais si on prend nos frères et nos compatriotes Wazalendo, parmi eux, il y a des gens au moins qui ont ce souci de défendre. Ce sont des patriotes, ça je ne refuse pas. Il faut savoir maintenant qu'est-ce qui est à la base de ce tiraillement entre les armées congolaises et les Wazalendo. C'est ça le plus grand problème. Et c'est la population qui souffre, qui compatit de tout ça.
Mais qu'est-ce qui est à la base, justement? Il semble que les Wazalendo veulent barrer la route à l'armée congolaise qui fuit.
Comment dire que l'armée congolaise fuit? Ça, non. Je crois que dans les tactiques de guerre, il y a des replis stratégiques. Si au moins vous trouvez que l'ennemi qui est en face de vous est en position de force un peu plus que vous, avez l'obligation de faire un repli pour bien se préparer. Et peut-être que c'est ce que nos compatriotes Wazalendo ne veulent pas comprendre. Mais en réalité, je ne vois pas pourquoi fuir. Pourquoi fuir, ça, je ne vois pas. Et même si c'était pour fuir, c'est pas ça qui serait, que ça peut pousser entre vous tous, vous combattez pour la République, vous tous, vous défendez le pays pour que vous puissiez vous entretuer entre vous. Et surtout que vous êtes tous Congolais, tous les enfants du pays.
Le député national Trésor Lutala Mtwiki, élu de Mwenga, dans le sud Kivu.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Cameroun, la justice se déclare une nouvelle fois incompétente pour exiger à ELECAM, l'organe électoral, de rendre publique la liste électorale nationale en prélude à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Ce verdict a été rendu hier par la Cour d'appel du centre Yaoundé suite à une requête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, un parti de l'opposition. D'après le Code électoral, c'est depuis le 30 décembre dernier que la liste électorale nationale devait être publiée. À Yaoundé, on fait le point avec notre correspondant Emmanuel Gilintap.
Hippolyte Méli, l'un des avocats du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ressort de la cour d'appel du centre à Yaoundé. Sans avoir obtenu un verdict favorable à la requête du MRC relative à la publication forcée de la liste électorale nationale. Hippolyte Méli, avocat du MRC.
Nous estimons que cette déclaration d'incompétence qui a été précédée par la recevabilité de notre requête est une décision où les juges du système judiciaire demandent au Conseil constitutionnel de faire son boulot. Et la Cour d'appel vient aujourd'hui, par sa déclaration d'incompétence, de nous dire d'aller défendre donc les droits des électeurs au niveau du Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême de régulation du système électoral.
Selon le code électoral, la liste électorale nationale est publiée au plus tard, le 30 décembre de chaque année, ce que l'organe électoral n'a toujours pas fait jusqu'à date. Atangana Amougou, avocat de Elections Cameroun.
Ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour d'appel ne sont compétents en cette matière. Le Conseil vous l'a dit, la Cour d'appel vous le dit, il appartient aux autres de savoir quelle juridiction saisir. Mais je sais quand même, s'il y a une aiguille à l'heure donnée, que le Conseil électoral est une administration et les actes qu'il pose sont des actes administratifs.
Par une correspondance datée du 29 janvier dernier et adressée à Aloïs Parfumvoum, président national du Forum républicain, le Conseil électoral s'est expliqué sur la non-publication de la liste électorale nationale dans les délais prescrits par la loi. Aloïs Parfumvoum, président national du Forum républicain.
Nous avons saisi le président du Conseil électoral pour instruction à donner au directeur de l'ECAM pour la publication de la liste électorale. Il nous a rassuré qu'il le ferait et que c'était un problème de trafic de leur réseau Internet. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu publier cela, qu'il y avait des hackers qui étaient entrés dans leur site.
Le politologue Ramani Yé indique que la liste électorale nationale n'avait pas été rendue publique lors de la dernière élection présidentielle, ce qui n'a pas empêché la tenue de ce scrutin.
Les listes électorales sont publiées au niveau des communes. La loi demande qu'elles soient affichées. Il y a cette précision. Et tous les citoyens normaux ou engagés dans le processus électoral, à l'instant T, doivent déjà avoir été au moins à ces antennes communales pour regarder leur nom. Maintenant, si il arrive que la liste électorale nationale prévue dans l'article 80 de la loi portant code électoral ne soit pas rendu public de quelque forme que ce soit, eh bien, l'élection va toujours se tenir dans la mesure où ce n'est pas une condition sine qua non pour le déroulement de l'élection.
Le président du Forum républicain, Aloïs Voum, pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette non-publication de la liste électorale nationale.
Vous constatez que l'extrême nord est en retard sur tous les plans et qu'on nous dise que c'est seulement sur le plan politique qu'ils sont plus inscrits. Ça nous pose un problème. Donc, ça nous permet de vérifier si nos électeurs sont inscrits dans tous les coins de la République. Voilà l'enjeu réel. C'est un début de clarification des listes électorales.
En août 2024, plus de 7 600 000 Camerounais étaient déjà inscrits sur les listes électorales. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
À présent, cette triste histoire liée à la guerre civile au Soudan. Jesma, 14 ans, a fui la région du Darfour au Soudan après que des milices armées ont tué ses parents et son frère, la laissant s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Aujourd'hui, elle vit dans un camp de réfugiés au Tchad. Elle travaille de longues heures pour nourrir sa famille, une réalité à laquelle sont confrontés de nombreux enfants déplacés par la violence brutale au Darfour. C'est un reportage d'Henry Wilkins, le récit est de Jacques Aristide.
Gesma, 14 ans, est arrivée il y a 2 ans dans ce camp de réfugiés situé à la frontière entre le Tchad et la région soudanaise du Darfour. Elle dit avoir fui le Darfour après que des milices arabes ont tué sa mère, son père et son frère. La VOA ne divulgue pas son nom de famille pour protéger son identité.
Ils ont tué mon petit frère. Ensuite, ils m'ont attrapé puis relâché. J'ai vu beaucoup de morts quand nous étions sur la route.
Gesma a fait le voyage jusqu'au Tchad avec ses jeunes frères et sœurs et son beau-père. Aujourd'hui, elle travaille dans les cuisines et est serveuse dans un restaurant de la ville d'Adé.
Je lave les vêtements et je nettoie aussi les meubles, c'est mon travail. L'argent que je gagne, je le donne à ma famille pour qu'on puisse acheter de la nourriture.
Elle dit qu'elle est le seul soutien de la famille, y compris de son beau-père, qui est au chômage. Les travailleurs sociaux d'Adré ont déclaré à la VOA que les adolescentes, comme Gesma, qui travaille dans les boîtes de nuit locales, sont souvent victimes d'abus de la part de leurs employeurs et de leurs clients. L'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance, affirme que le travail des enfants à Adré est un problème majeur.
Il est très difficile de disposer de statistiques claires à ce sujet, mais c'est un problème important.
On peut voir de nombreux enfants fabriquer des briques en banco et travailler sur les marchés d'Adré. Selon Kadzato, s'ils travaillent, ils s'exposent non seulement à des dangers potentiels, mais ils sont également privés de leur éducation et surtout de leur enfance. Selon elle, les enfants qui arrivent à 100 personnes pour s'occuper d'eux sont particulièrement vulnérables à l'exploitation.
Les enfants qui sont arrivés complètement seuls, c'est-à-dire sans soins, sans personne qui s'occupe d'eux, comme ceux sans parents ou sans aucun membre de la famille, sont les plus vulnérables parce qu'ils sont vraiment arrivés seuls.
Gesma dit qu'elle souhaite simplement que les choses redeviennent à ce qu'elles étaient au Darfour, quand elle avait l'habitude de passer du temps avec ses amis.
Mes amis ont été tués. Elles étaient trois, j'allais à l'école avec elles.
Avec la disparition de tant de personnes qu'elle aimait et la responsabilité de subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs, il y a peu d'espoir que sa vie redevienne normale.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'administration Trump a salué mardi des discussions en Arabie Saoudite auxquelles ont participé des responsables américains et russes, même pas d'Ukrainiens. La Maison-Blanche a déclaré que cette diplomatie parallèle est une première étape clé pour mettre fin au conflit qui dure depuis 3 ans. C'est un reportage d'Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Dili Diko.
Les discussions pour mettre fin au conflit en Ukraine ont démarré hier en Arabie Saoudite, en présence des représentants de Washington et de Moscou, en l'absence de Kiev. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les deux parties s'étaient mises d'accord globalement sur le personnel des ambassades et sur la création d'une équipe de haut niveau pour les pourparlers de paix. Dans sa propriété de Floride, le président Donald Trump s'est montré optimiste et a rejeté les critiques selon lesquelles l'Ukraine aurait dû être invitée.
Je pense que j'ai le pouvoir de mettre fin à cette guerre. Je pense que tout se passe très bien, mais aujourd'hui j'ai entendu dire « Oh, nous n'avons pas été invités ». Eh bien, cela fait 3 ans que vous êtes là. Vous aurez dû y mettre fin en 3 ans. Vous n'aurez jamais dû commencer. Vous aurez pu conclure un accord.
Trump a aussi noté que la cote de popularité du président ukrainien Volodymyr Zelensky avait chuté par rapport au niveau élevé qu'elle avait atteint au début du conflit. Il a laissé entendre qu'il s'agissait d'une condition de négociation.
Lorsqu'ils veulent s'asseoir à la table, les Ukrainiens ne devaient-ils pas dire « Vous savez, cela fait longtemps que nous n'avons pas eu d'élection. Ce n'est pas une affaire russe. C'est quelque chose qui vient de moi et de beaucoup d'autres pays aussi. »
À Ankara, la capitale turque, le président Volodymyr Zelensky a fait pression pour être inclus dans tous les pourparlers aux côtés de partenaires tels que l'Union européenne et la Turquie.
Je suis convaincu que pour l'Ukraine, pour notre région et pour l'Europe, il est essentiel que les négociations visant à mettre fin à la guerre ne se déroulent pas dans le dos des principales parties touchées par l'agression russe.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rejeté l'idée d'élargir la table.
La philosophie européenne n'a pas évolué et je ne sais pas donc ce qu'ils devraient faire à la table des négociations. S'ils ont l'intention de proposer des idées astucieuses pour stopper le conflit, tout en ayant l'intention, comme ils ont l'habitude, de poursuivre la guerre, alors pourquoi devrions-nous les inviter ?
Les analystes estiment qu'il y a une certaine logique à cela, compte tenu des divergences qui séparent Kiev et Moscou.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.